Mesdames, messieurs, bonjour, c'est Jacques et soyez les bienvenus dans le magazine du Tarn de CFM Radio. Nous poursuivons aujourd'hui notre grand entretien avec Madame Claire Fita, députée européenne et conseillère régionale d'Occitanie. Une interview enregistrée au début du mois à Gaillac à l'occasion de la tournée citoyenne « La région à vos côtés ». Et nous nous sommes alors retrouvés sur la terrasse de la cave Rouge Gorge, sur la place du Griffoulet. Dans ce volet, nous prenons le temps de mieux comprendre le rôle d'une députée européenne et les liens qui unissent Bruxelles, Strasbourg avec nos territoires. Alors, après avoir évoqué en première partie de cette interview le bilan de ses premières années de mandat et la place de la ruralité dans les politiques européennes, nous allons aujourd'hui nous intéresser au grand dossier qu'elle suit au Parlement européen, aux enjeux qui mobilisent son action et à la manière dont elle entend maintenir un dialogue permanent avec les habitants d'Occitanie. D'ici là, The Animals passe par là en musique. We have gotta get out of this place.
In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due, I know. Watch my dad.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Claire Fita, députée européenne et conseillère régionale d'Occitanie, est avec nous sur CFM Radio. Cela fait maintenant un peu plus de 2 ans que vous êtes députée européenne. Déjà, quel regard vous portez là sur vos 2 premières années? Qu'est-ce qui vous a le plus surprise lors de votre premier jour, lors de votre arrivée à Bruxelles?
Ce qui m'a le plus surprise, c'est la force de la dimension européenne. Vous savez, unie dans la diversité, ce multiculturalisme et le fait d'avoir vraiment des forces pro-européennes qui voulaient travailler ensemble, faire avancer ce projet de paix. Mais dans le même temps, j'ai vu ces forces populistes très puissantes.
Qui prennent de plus en plus de place et de voix aussi.
Tout à fait, notamment au Parlement européen, il y a eu un grand changement lors des dernières élections. Le compromis européen, il est né de quoi? Parce qu'on dit, ah oui, au niveau européen, il y a une autre culture politique en France, il y a cette culture du compromis. Pourquoi il y a cette culture du compromis? Parce que personne ne pouvait agir seul, c'est-à-dire un État membre par rapport aux autres ne pouvait pas agir seul, mais au sein même du Parlement européen, il n'y avait aucun groupe politique qui avait la majorité à lui tout seul. Donc, eh bien, les groupes pro-européens travaillaient sur des compromis pour pouvoir faire avancer la construction européenne. Et là, depuis 2 ans, donc avec les précédentes élections européennes, la droite et l'extrême droite peuvent aujourd'hui constituer une majorité. Donc, extrême droite eurosceptique, populiste, opposée à l'Europe, opposée au soutien à l'Ukraine, opposée au projet européen.
Et qui viennent quand même parce que la cantine est bonne, si je peux caricaturer comme ça.
Le juge l'a attesté, vos propos. Donc on est en effet sur un état de fait. Mais pour autant, là aujourd'hui, et c'est une rupture dans cette culture du compromis européen, la droite constitue régulièrement des majorités aujourd'hui avec l'extrême droite. Donc contre l'Europe. Et là, on est en train de passer un cap très dangereux où, en tout cas, moi je le regrette sincèrement, et on fait des appels très réguliers, mon groupe politique, mais toutes les forces pro-européennes, en disant ne vous dévoyez pas, ne trompez pas nos concitoyens, parce que vous êtes pro-européen, vous poursuivez la construction européenne. Donc ça m'a beaucoup troublée d'avoir cette alliance droite, extrême droite, et les populistes extrêmement forts, quels que soient les pays, Et la trahison et le mensonge de ces populistes qui disent, par exemple sur l'Ukraine, c'est très flagrant, voyez, ils disent qu'ils soutiennent l'Ukraine dans leurs mots, mais dans tous leurs votes, sans exception, ils ne votent jamais un texte qui va permettre de soutenir l'Ukraine de manière concrète, manière très concrète. Donc clairement, ils sont dans une alliance avec Vladimir Poutine, qui aujourd'hui attaque l'Ukraine, mais vous savez, la guerre hybride de la Russie, y compris sur notre continent, qui attaque par exemple de manière informatique, numérique, des hôpitaux, c'est réel. Et il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Le danger grand, c'est terrible, je ne pensais pas un jour être engagé sur ce type de thématique, mais ce n'est pas une thématique aujourd'hui, c'est la réalité. Et l'extrême droite, elle nous met dans les mains de dictateurs aussi dangereux que Vladimir Poutine aujourd'hui.
En dehors des sujets comme la guerre, comme la politique agricole commune qui, on le sait depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, est un fonds très important pour la survie, je ne parle même pas de la vie des agriculteurs, on a souvent l'impression que l'Europe prend des décisions futiles. Je vais utiliser ce terme-là, sur les bouchons en plastique, sur, je sais pas moi, les quantités de nitrite dans le jambon et tout ça. Et pourtant, on ne voit pas forcément l'Europe au jour le jour dans notre quotidien. Et on ne voit pas comment est-ce que l'Europe change positivement notre vie. Est-ce que vous avez déjà eu ces retours-là, des gens qui vous disent ça, et qu'est-ce que vous leur opposez comme argument?
Bien sûr, et moi-même, je le pense parfois. Donc c'est une réalité sur l'opportunité d'un certain nombre de décisions qui ne sont pas les bonnes, donc des erreurs qui sont commises, ou en effet des priorités que je considère ne pas être les bonnes priorités, ou en tout cas qui correspondent à ma vision. Mais ce que je reste profondément pro-européenne, à condition, bien entendu, qu'il y ait de profonds changements. Mais pourquoi je suis pro-européenne? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que l'Union européenne, cette union de 27 États membres, qui est la seule en capacité de rivaliser par rapport à des géants que sont la Chine, les États-Unis ou encore la Russie aujourd'hui dans cette guerre qui mène en Ukraine. La France, que j'aime, qui est mon pays, dont je suis extrêmement fière et qui a des forces incroyables, ne peut pas
individuellement être
dans cette concurrence. Elle n'est pas à la hauteur de cette concurrence-là. Il n'y a que cette échelle européenne qui peut nous permettre de franchir, parce qu'aujourd'hui, la Chine, on parle d'agression, d'un point de vue économique, c'est un danger majeur pour l'Union européenne. Et de la même façon, hein, on voit bien que l'Union européenne a décroché en termes d'innovation par rapport notamment aux États-Unis sur des sujets qui sont importants, en effet, hein, notamment le numérique. Mais mon vrai combat, enfin, ça fait partie de mes combats, hein, mais le combat concomitant, c'est de dire, moi, je crois en notre modèle social au sein de l'Union européenne, et en particulier notre modèle social français. Et je pense qu'il est bien meilleur que le modèle social des États-Unis, parce que vous comparez nos espérances de vie, et là, c'est les États-Unis qui décrochent, hein, en termes de santé, d'accès aux soins, etc. Donc, moi, je suis convaincue que pour défendre notre modèle social, pour défendre la solidarité que nous avons organisée entre les femmes et les hommes, entre les générations, eh bien, c'est ça, notre véritable richesse. Et pour préserver cette richesse-là, il faut que nous arrivions à rattraper ce retard par rapport aux États-Unis et arriver à jouer contre cette concurrence déloyale qu'aujourd'hui la Chine nous fait vivre au sein de l'Union européenne.
Bon, les 27 États membres prennent quasiment tous leurs vacances en même temps. On va dire que le mois d'août, c'est un mois de vacances. Est-ce que vous savez déjà quelles vont être les priorités là, du Parlement à partir de septembre? On sait qu'il y a la guerre en Ukraine qui reste une priorité pour presque tous les États. En dehors de ces sujets-là, qu'est-ce qui est prioritaire là, pour l'Europe pour les années à venir?
Alors c'est un moment charnière parce que on va continuer de travailler sur le budget européen. Et le budget européen, en fait, il se négocie de manière pluriannuelle. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de négocier maintenant, c'est à partir de 2028, mais c'est pour plusieurs années. Et cette Europe du quotidien que vous évoquiez avec ces fonds de cohésion, avec comment on aide un hôpital, comment on aide une entreprise, comment on aide un service public dans un village, dans une commune, etc., eh bien, c'est aussi au cœur du budget. Et véritablement, moi, je me bats pour qu'on préserve et qu'on augmente ces fonds de cohésion, c'est-à-dire faire Europe, donner à voir l'utilité du quotidien de l'Union européenne en défendant ces fonds européens. Alors, ça s'appelle FEDER, FSE, c'est des acronymes, mais je sais qu'ils sont maîtrisés maintenant par un grand nombre d'acteurs, qu'ils soient économiques, politiques, associatifs. Et les fonds de cohésion, c'est ça. Et aujourd'hui, ils sont mis en danger parce que, si vous voulez, il y a forcément de nouveaux défis, hein, qui est notamment celui de la défense. Donc ça va représenter des moyens supplémentaires qui vont être consacrés notamment à cet objectif-là, mais l'innovation en fait partie. Et moi, je ne voudrais pas que ce soit au détriment de cette Europe du quotidien qui sont portées par les fonds de cohésion ou par la politique agricole commune. Parce que, grosso modo, historiquement, le budget de l'Union européenne, c'est un tiers la politique agricole commune, un tiers les fonds de cohésion et un tiers tout le reste. Donc tout le reste va prendre de l'importance, ce qui est légitime. Donc moi, je pense qu'il est indispensable que l'Union européenne, elle se dote de ressources propres pour pouvoir augmenter sa puissance d'action et que ce ne soient pas des décisions inutiles sur la taille infinitésimale de telle ou telle production, de tel ou tel bouchon, enfin ce que vous décriviez, mais que ce soit bien comment, eh bien, je continue de créer de l'emploi grâce à des fonds européens, que nous ayons aussi des trains, plus de trains grâce à l'Union européenne, parce qu'elle a une vraie politique de désenclavement et surtout pour relier l'ensemble de nos territoires. On a besoin d'ambition européenne et je pense qu'en particulier notre région Occitanie, qui souffre d'être éloignée, d'avoir moins d'infrastructures, notamment de mobilité, eh bien, l'Union européenne, elle a toujours répondu présente et c'est elle qui pousse les gros projets d'infrastructures de mobilité dont je suis convaincue nous avons absolument besoin pour vivre mieux et pour développer notamment des trains du quotidien, à grande vitesse mais aussi du quotidien. Plus de bus mais avec des sources d'énergie qui ne soient pas fossiles et qu'on arrive à enclencher ce changement-là de décarbonation de nos transports. Ça, sans l'Union européenne, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc je veux que l'Union européenne elle puisse être au rendez-vous et c'est maintenant que ça se joue.
Alors vous avez forcément une vision très globale et puis vous devez avoir une forme d'équité envers tous les territoires que vous représentez quand vous êtes à Bruxelles, parce que c'est une voix qui parle autant pour le Tarn, l'Occitanie, la France et puis même l'Europe aussi. Mais bon, vous avez amené le terme chocolatine à Bruxelles. Qu'est-ce que vous faites pour les Tarnais quand vous êtes à Bruxelles, du coup? Quels sont les dossiers que vous souhaitez faire pousser? Quel peut être votre rôle aux côtés d'associations, de collectivités, par exemple?
Alors, il y a deux dimensions. Déjà, la première volonté, c'est vraiment d'être l'accent d'Occitanie, l'accent tarnais à Bruxelles. Et croyez-moi, ils ne l'entendent pas souvent. Hein, et la bulle bruxelloise, ce n'est pas un mythe non plus. Donc, ensuite, il y a deux dimensions dans l'action que je déploie. Il y a la dimension où j'essaye d'être une interlocutrice, un relais des porteurs de projets, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, du Tarn et de l'Occitanie. Donc il y a des entreprises qui prennent régulièrement, qui me sollicitent pour dire voilà, je suis confrontée à... Je voudrais me développer dans telle direction, qui je peux contacter ou quelles ressources au niveau européen je peux mobiliser pour m'aider. Mais ça peut être aussi voilà, par rapport à la réglementation européenne, qu'on m'alerte sur tel dispositif qui peut entacher telle activité qui existe. Donc voilà, donc cet aspect assez individuel, hein, en fait, projet par projet, difficulté par difficulté, parce que je pense que ça, c'est très important que je réponde aux sollicitations. Et ensuite, il y a les besoins de notre territoire avec l'ensemble des politiques qui peuvent être déployées. La réforme que je défends de la politique agricole commune, c'est notamment pour l'Occitanie et le Tarn, parce que, comme je vous le disais, c'est là où nous avons les revenus les plus faibles agricoles. Inverser cette tendance, arriver à redonner plus d'équité, en fait, eh bien, c'est un changement de la PAC. Et ça, c'est vraiment prendre en compte le réchauffement climatique dans l'ensemble des politiques, et notamment la politique agricole commune. Vous savez, les incendies qui sont terribles partout, hein, quels que soient les territoires, mais ils sont plus importants dans toutes nos régions du sud-ouest, méditerranéenne. Eh bien, ça, la production agricole, elle a un rôle à jouer pour pouvoir ralentir les feux. Elle a un rôle aussi d'aménagement de territoire. Elle a un rôle de production, mais elle a un rôle aussi d'aménagement du territoire. Ben, comment on se bat pour défendre ces productions-là, à ces endroits-là, parce que c'est bien entendu nourrir les gens, mais c'est aussi les protéger. Donc ça, c'est vraiment au cœur là, de la négociation de la PAC qui est en ce moment, et ça va continuer, bien entendu, en septembre. Donc voilà, j'essaye d'être sur ces deux jambes, de nos concitoyens qui ont des projets, qui ont des demandes spécifiques et qui demandent d'aller dans le détail de telle mesure ou tel besoin, et ensuite des politiques plus globales où là on est d'accord que c'est de la négo plus vaste avec l'ensemble de mes collègues, la Commission européenne, mais surtout bien ancrée toujours avec les acteurs d'Occitanie et du Tarn, et j'ai à cœur, comme j'étais à Carmo, mais bien sûr de poursuivre la collaboration au plus près avec l'ensemble de mes collègues et des acteurs qui font vivre notre belle région.
Et pour finir, comment vous avez vécu ces deux dernières années ?
C'est une émulation permanente. Vraiment, je me considère comme avoir beaucoup, beaucoup de chance de vivre cette émulation, bien sûr politique, intellectuelle, parce qu'il y a beaucoup d'expertise, vous savez, au niveau européen, en permanence, tout autour de soi, quels que soient les sujets, mais aussi cette émulation culturelle de côtoyer ces nationalités si différentes. Et vous savez, au sein même, par exemple, d'un groupe politique, de mon groupe politique, il y a vraiment des différences relativement importantes, et donc de comprendre ces différences-là, mais toujours de construire l'unité, quoi, de construire ce qui nous rassemble, c'est une richesse incroyable, c'est très exigeant, je me déplace beaucoup, mais je crois en l'Europe. Hein. Mais nous avons besoin d'une Europe qui protège, pas d'une Europe libérale qui ne se concentre que sur les profits, mais bien une Europe qui se concentre sur sa population, sur sa protection, quelles que soient les dimensions.
Merci beaucoup Claire Fita d'avoir pris le temps de répondre à mes questions ici à Gaillac, hein, dans la cave Rouge Gorge, après cette étape de la tournée, la région à vos côtés. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale, hein, de l'Occitanie et députée européenne, et vous faites partie du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Merci beaucoup, très bel été à vous.
Merci à vous aussi.
Sometimes I'm looking for a soul.
L'été de Vahour démarre demain pour sa 40e édition. Jusque dimanche, le village de Vahour accueillera de nombreux spectacles pour nous faire rire et nous faire réfléchir dans une ambiance toujours chaleureuse, conviviale, ouverte à tous les publics et tous les âges. C'est le focus de la rédaction de ce lundi.
Reportage, interview, témoignage, CFM, coup de projecteur.
Les 40 ans de l'été de Vahour arrivent, c'est du 4 au 9 août, pour ce festival de spectacles vivants, mais aussi de concerts. Et pour son anniversaire, la programmation sera, comme à son habitude, riche et variée. Cette année, c'est Manon Rambeau qui s'occupe de la programmation.
L'idée là, de cette année, au niveau de la programmation, c'était d'avoir plusieurs... Mais comme ce qui a été fait jusque-là, d'avoir des propositions vraiment diverses, avec autant du théâtre, du spectacle de rue, de la marionnette, du cirque, de pouvoir un petit peu mélanger toutes ces disciplines-là. La programmation de la musique, elle est faite en comité. Et voilà, on a fait des beaux choix bien différents et divers, qui va du bal occitan à...
De l'Africa Groove, d'Afrique de l'Ouest, par exemple.
Voilà, il y a Ultra Gamma aussi, de la house instrumentale. Voilà, il y a plein de propositions diverses pour s'adresser vraiment à un public varié. Et puis, bah, pour les 40 ans, il y a aussi l'envie de proposer des choses un peu inédites qu'on retrouvera aux 40 ans. Et puis, parce que je trouve que les surprises sont toujours une bonne manière de fêter un anniversaire. L'idée, c'était d'inviter plusieurs clins d'œil des 10 premières années. Bah, on essaye de trouver un petit clin d'œil et de le remettre à notre sauce de 2026. Et, enfin, voilà, et de pouvoir avoir comme ça des petites interventions tout au long du festival. Donc, qui vont apparaître comme ça, ici et là.
Il y a une partie de la programmation qui est payante et l'autre qui est à prix libre, accessible à toutes et tous.
On a les spectacles gratuits qui sont au stade. Et puis, il y a les scènes découvertes. Les scènes découvertes, c'est 10 spectacles et c'est des jeunes nouvelles créations. Et donc, c'est aussi des propositions qui sont gratuites, mais qui sont à participation libre et qui est quelque chose qui est très important aussi pour l'économie du festival. La grande épopée de l'été de Vahour aussi est gratuite puisqu'elle est dans le champ.
L'été de Vahour, c'est du 4 au 9 août à Vahour, dans le nord du Tarn. Toutes les infos sont sur etedevahour.org.
Coup de projecteur, CFM.
De nombreux spectacles en participation libre ou payant à Vahour dès demain donc, avec aussi de la musique, deux concerts gratuits tous les jours à 18h30 et 23h30 sur la place de l'église du village de Vahour. Et en musique notamment, le groupe Braya en concert jeudi pour l'apéro à 18h30. Et c'est avec un de leurs sons que l'on se quitte. Voici l'eau compagnonne d'Aveyron de Braya sur CFM Radio avant le retour des informations. C'était Jacques pour le magazine du Tarn. À demain.
Pau a pe porti mun bagace e mun messieme nui rira. Pau a pe porti mun bagace e mun messieme nui rira. Tut curajus petam che sia cosa ne incontraras mai d'un dangè. Tut curajus petam che sia incontrarás mai d'un dangè.
Hai un pistolet in las brados e un bastu de cudumie. Hai un pistolet in las brados e un bastu de cudumie.
Pende liber, pende laura, ce regretarás tu navairu. Pende liber, pende laura, ce regretarás tu navairu.
Nus fraires de companionatze maculiran din lur foairu. Mus frères de companionate maculiram din lur foairu.
Che tanta grado sanavo truba lutten lung.